Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, la patate. Nous sommes vendredi soir, donc c'est le week-end qui commence pour certains d'entre vous. Enfin, le week-end commence pour tout le monde. Certains en profiteront pour se reposer plus ou moins. Certains, peut-être d'entre vous, travaillent sur leurs projets. Le week-end, c'est souvent le moment où on a le plus de temps, on travaille sur les projets, les photos, les choses comme ça. Surtout en ce moment où les journées sont de plus en plus courtes et si vous travaillez dans le domaine de la photo, vous avez besoin d'un peu de lumière, la lumière du jour qui est toujours plus belle. Ou alors vous êtes obligé de sortir les éclairages, etc. Bref, souvent le week-end, on en profite pour avancer. Ou alors on fait rien, on se pose sur le canapé et on regarde Netflix. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, vous me le direz. Mais c'est pas trop le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt un Ask Bertrand. Vous savez, vous pouvez me poser des questions. Le vendredi, c'est le jour des questions. Si vous avez une question, vous la posez sur les réseaux sociaux, vous me la posez par mail, vous me la posez sur Patreon, vous me la posez où vous voulez. Et Estelle, justement, de Cocktail Memento, m'a posé une question. Alors, je la remercie pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle a posé une question. D'autre part aussi, parce que c'est une patronne, oui, Estelle, fait partie des gens qui donnent de l'argent pour faire vivre le podcast. Et donc, elle m'a posé une question qui était intéressante. Très, très, très intéressante. Quelles seraient tes idées et guidelines pour créer du contenu, trois petits points, appliqué à l'entreprise? Alors, quand j'ai vu sa question, je me suis dit, j'ai une réponse courte. C'est les mêmes que celles que je vous donne depuis le début. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce que je vous raconte depuis le début sur la marque personnelle s'applique aussi, bien sûr, pour de l'entreprise. Ce que je vous explique là, en fait, depuis le début, on a l'épisode combien ? On a l'épisode 132. C'est tout simplement de l'entrepreneuriat, entreprendre autour de son blog, de son contenu perso, de sa marque personnelle, de ses projets perso, etc. Mais une entreprise, on fonctionne de la même manière. Alors bien sûr, il y a quelques petites variantes. Et bien sûr, c'est un peu une pirouette que je fais en disant ça. La marque personnelle est en fait une adaptation à nous, personnes, des principes qu'on applique en entreprise. Je vous cache pas, la plupart des méthodologies, des concepts, etc. viennent tout simplement de ce qu'on fait en entreprise. Donc on peut partir de ce que je vous raconte en marque personnelle pour l'appliquer à l'entreprise. On peut appliquer exactement les mêmes éléments, mais l'important à mon sens quand même, c'est de structurer un peu les choses. Surtout Estelle, si t'as un chef, un patron, ils peuvent être frileux ou simplement savoir où tu veux aller, pourquoi, comment, ce que ça implique, ce que ça rapporte aussi. Alors, mis à part les cas où vous devez créer un peu en cachette pour lui forcer la main, sinon il ne se décidera jamais, en général, il faut quand même présenter les choses. Bref, dans ces cas-là, quand vous voulez faire les choses bien, présenter les choses, on a une méthode qui marche pas mal, qui rassure un petit peu tout le monde, qui s'appelle le modèle Tomster, qui a été imaginé par Emmanuel Vivier. Alors, c'est une méthode qui est très intéressante, qui permet de cadrer les grands axes. Cela se recoupe avec d'autres trucs dont je vous ai parlé déjà dans les épisodes précédents, notamment un petit peu de SMART par rapport aux objectifs, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que Tomster, c'est 7 grands points de réflexion. Vous avez compris, c'est un acronyme avec chaque lettre de cet acronyme correspond à la première lettre d'un mot. Alors je vous propose qu'on balaye très rapidement ensemble à quoi correspondent ces 7 grands chapitres. Et vous allez voir qu'en fait, ça vous donne une méthode. Quand vous étudiez les 7 points, vous arrivez sur une méthode qui est assez cadrée, on va dire. Alors le T, c'est target en anglais, égale cible. Je reviens pas trop dessus. La cible, vous savez... ce que je pense, il faut vraiment s'adresser à une cible. Est-ce que vous parlez aux pros, grand public, à certains pros? Quels sont les usages de votre cible? De quoi a-t-elle besoin? Pourquoi chercherait-elle l'entreprise? Où se trouve-t-elle, etc. Mais attention, elle peut chercher l'entreprise ou elle peut chercher ce que ferait l'entreprise. Elle peut chercher ce que font les concurrents de l'entreprise, peut-être. Parce que peut-être qu'elle connaît pas l'entreprise. Donc il y a tout un tas de questions à se poser comme ça. Mais... elle peut aussi chercher des personnes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle peut très bien chercher aussi des commerciaux, des gens qui pourraient lui répondre ou quoi que ce soit. Vous voyez, savoir à qui elle veut s'adresser, ce qu'elle cherche exactement. Oh là, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'elle cherche exactement. Alors, On peut essayer, et c'est là la difficulté, de se dire, mais à quoi elle ressemble, cette cible? Alors, il y a les méthodes des personas, vous savez, je vous ai dit aussi, vous pouvez faire des personas personnels, plus, comment dire, partant d'une personne à qui vous voudriez parler, dans marque personnelle. En général, sur les entreprises, on fait des personas plutôt à partir de l'analyse de ses clients, c'est-à-dire que l'intérêt de toutes les bases CRM et compagnie, c'est justement d'aller chercher des données dans les bases de données, des données clients, etc., pour essayer de quantifier, de qualifier un petit peu les volumes de clients. Est-ce qu'on a un, deux, un type, deux types, trois types, etc. Mais vous avez d'autres personnes qui sont très intéressantes. Les bases de données, c'est bien, mais vous avez aussi les commerciaux, le retour des commerciaux. Si vous êtes dans des bureaux, dans des boutiques, etc., dans les boutiques, vous avez même une observation de ce que font les gens dans les boutiques. Vous avez aussi l'interview de quelques clients. Hein, selon la méthode Lean, ce que je vous avais dit en méthode Lean, vous pouvez très bien aller interviewer quelques clients ou trouver avec l'aide des commerciaux par exemple qui peuvent vous aider, etc., faire un petit questionnaire pour leur demander exactement aussi quels sont leurs besoins. Alors vous n'allez pas leur poser la question de savoir qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse sur internet, est-ce que vous voudriez qu'on ait une page Facebook ou quoi que ce soit. Non, ce qu'il faudrait, c'est essayer de discuter avec certains, les questionner et faire émerger finalement quels seraient leurs besoins et comment finalement vous pourriez essayer de répondre à certains de leurs besoins. Le deuxième lettre de l'acronyme Tomster, c'est objectif. Là encore, aucune surprise. C'est le principe est simple à comprendre. C'est l'objectif peut être smart. Il devrait être smart. Hein, donc j'en reviens à l'épisode sur smart. Mais on pourrait le définir autrement. C'est là où j'apporte une petite variation. Alors par exemple, en marketing, on utilise un modèle qui s'appelle EDA, A-I-D-A, voilà, qu'on peut résumer par attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Bon, là, je vous le fais, bien sûr, il est en quatre lettres, mais en fait, il est plutôt, ça mériterait un épisode complet, hein, parce que c'est en fait une méthode marketing pour positionner le parcours du client, savoir où on est, par rapport à ses composantes qui freinent l'achat. C'est-à-dire que dans son parcours de connaissance de l'entreprise et du produit, il y a à un moment donné des freins qui le bloquent et on essaye en fait de débloquer ça à trois niveaux. Alors, je vous passe sur le détail, etc. parce que là, on tape sur des parties, sur le, comment dire, des ressorts psychologiques. Mais dites-vous qu'en fait, dans ce modèle-là, etc., il y a un premier niveau, c'est à attirer l'attention, hein, c'est lui faire connaître, arriver à le faire passer à la connaissance du produit. Donc déjà, attirer son attention et puis lui faire connaître le produit. Ensuite, il faut susciter l'intérêt. Et notamment, il faut, ce qu'on dit, c'est il faut qu'il arrive à évaluer l'intérêt pour lui, l'évaluer par rapport à la concurrence, etc. Et puis, qu'il ait une préférence pour votre produit à vous. Et puis ensuite, il y a aussi un autre niveau, c'est déclencher le désir et l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit convaincu pour passer à l'achat proprement dit. Alors, là, je vous le fais super rapidement, mais en fait, il est fort possible que sur le web, que sur les réseaux sociaux, on arrive à ne faire qu'une partie de tout ça, ou alors on pourrait faire les trois. Ça dépend si vous faites du commerce en ligne, ou si vous avez des formulaires de vente, etc. Si vous avez des appels à l'action qui permettent de passer les étapes suivantes. Certains ne vont travailler que sur le fait d'attirer l'attention. D'autres vont travailler sur le fait qu'on en donne envie aux gens d'acheter le produit, mais peut-être ils le vendront pas en ligne. Il faudra que le client aille en commerce, quoi que ce soit. Donc là, il y a des objectifs qui vont découler de ça. Si votre objectif, c'est d'attirer l'attention, ou si votre objectif, c'est de passer à l'action et que l'action, c'est l'achat proprement dit sur Internet, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas tout à fait la même chose non plus si vous avez envie de faire passer à l'achat, par exemple, qui vous passe un coup de fil, qui remplisse un formulaire, qui remplisse des bases de données en répondant à des questions ou des jeux. Vous voyez, il y a tout un tas de systèmes comme ça. Le jeu, en fait, c'est quoi? Ça sera, on le verra plus tard, ça sera un moyen technique. Mais votre objectif qui se cache derrière, dire je veux récupérer des données, vous pouvez très bien avoir un objectif qui soit de remplir des bases de données avec des clients, des données sur les clients, des contacts, etc. Vous voyez, vous pouvez avoir un objectif qui soit de dire je veux collecter de la donnée sur mes clients, un objectif qui soit de dire je veux me faire repérer par des nouveaux clients potentiels, avoir des prospects, etc. Tout ça, on en reparlera parce que, d'une part, le modèle est intéressant en lui-même. Et puis d'autre part, ça nous amène aussi sur des notions, par exemple sur l'inbound marketing, etc. Et on verra au fur et à mesure des épisodes dans les semaines qui viennent aussi qu'on peut creuser encore un petit peu différemment et qu'il y a encore d'autres tiroirs à tirer. Ah, excusez-moi, ce soir j'ai vraiment un problème de voix. Le troisième LED de Tomster, c'est le message. C'est le message principal que mettre en avant, qui correspond aussi, quel est l'ADN de votre entreprise, comment être intéressant pour votre cible. Attention, plutôt, comment vous êtes intéressant pour votre cible. J'en reparlerai bientôt, mais considérez tout simplement que sur les réseaux sociaux, désormais, vous êtes chassé par des clients qui ont tellement de choix que de toute façon, ils vous attendent pas vous pour acheter un truc, hein, sauf si vous êtes certaines entreprises très très rares. Mais la plupart du temps, ils ne vous attendent pas vous. Donc en fait, ils vont chercher ce que vous faites et le tout, ça serait qu'ils arrivent à tomber chez vous. Donc il faut plutôt trouver un moyen d'être intéressant pour eux plutôt qu'intéressé par eux directement. C'est-à-dire qu'il faut montrer en fait que quelque part, vous avez de la considération pour eux. Alors ça aussi, on pourra en parler dans différents épisodes. Parce qu'en fait, quand on balaye un petit peu tous ces ensembles-là, on arrive à taper sur pas mal de grandes thématiques et de sous-thématiques, etc. En parlant de thématiques, le message, il y a aussi une question qui se pose, c'est quelles sont vos thématiques, quelles sont vos grandes thématiques, sachant qu'il ne faut pas en choisir trop non plus. Hein. On a quelques grandes thématiques sur lesquelles on a envie de communiquer. Là peut être sur la thématique, certains vont choisir le Made in France, le côté éthique, certains vont choisir le côté innovation, certains vont choisir un côté plutôt on montre qu'on est une entreprise vraiment au service de ses clients, enfin vous voyez la notion de service, etc. Donc on a quelques grands piliers dans lesquels on peut travailler. C'est compliqué de tous les travailler en même temps, ou en tout cas les travailler tous en même temps sur toutes les plateformes. Il y a peut-être des plateformes qui sont plus dédiées, certaines à faire de l'image, certaines pour montrer qu'on est au service des clients, d'autres pour montrer, je sais pas, que par exemple on fait du Made in France, comment on montre ça, on a des manières pour le montrer, on peut le faire de plein de manières différentes, comment on travaille de manière éthique, etc., mais on peut pas le faire partout non plus, voilà. La suite, en fait, c'est le S de stratégie. Alors, quelle approche on retient? Parce qu'il y a toujours plusieurs approches. Et en fait, vous avez plein d'approches différentes, hein, sur par exemple, sur le, votre but, c'est de faire connaître un produit. Vous avez plein de manières de le faire. Vous pouvez rêver, vous pouvez éduquer les gens sur l'utilisation, non pas du produit, mais leurs problèmes, etc. Comment vous faites. Vous pouvez répondre aux questions avant tout, surveiller, être à leur écoute, être à l'écoute de gens qui cherchent des choses par rapport à ce que vous faites. Et pas seulement ceux qui s'adressent à vous, vous voyez, il y a des stratégies comme ça qui peuvent découler. Par exemple, il y aurait une stratégie qui serait de dire, moi je peux être sur Twitter, mais seulement, non pas pour essayer d'avoir beaucoup de followers sur mon compte, mais pour repérer les gens qui parlent de ma thématique potentielle, de ce que fait mon entreprise, et que je vais essayer d'attraper en discutant avec eux, en essayant de creuser un petit peu les choses, et en essayant ensuite de les amener sur mes supports à moi. Qui, pas forcément Twitter directement, parce que émerger sur Twitter, des fois, ça peut être compliqué. En revanche, faire de la veille sur Twitter est très très simple. Faire de la veille sur Facebook pour surveiller ce que des gens parlent, s'ils parlent de nous ou s'ils parlent des thématiques qui nous intéressent, c'est plus compliqué. Voilà. C'est là où il y a dans la stratégie, il faut un petit peu faire des choix, des fois. Alors, dans votre stratégie, il faudra aussi distinguer deux choses qui sont importantes. C'est la notion de court terme de long terme. Alors bien sûr, à l'échelle des réseaux sociaux, on dit toujours oui, mais on va pas travailler sur le long terme. Et pourtant, toutes les notions de lancement d'applications, lancement de sites, boutiques en ligne, commerce, etc., sont des projets à quand même assez long terme. Parce que des fois, ça a des telles implications, vous pouvez pas travailler ça sur du court terme. Ensuite, l'autre élément dont il faut essayer de distinguer, c'est le stratégique. Donc qui est là souvent sur de long terme, mais aussi par rapport aux tactiques. Et c'est quoi le tactique? Notamment, vous savez, c'est toutes les stratégies de community management à court terme. Repérer les mèmes, répondre, faire rire les gens le vendredi, souhaiter un bon week-end, etc. Là, on est sur l'animation qui est vraiment très court terme. Et puis, on a des moments tactiques aussi qui sont, par exemple, c'est la semaine prochaine, c'est Black Friday, il y a eu Halloween, il y a Noël qui arrive, etc. On est sur des périodes qui sont pas du long terme sur le plan stratégique, qui sont sur sur une période de temps d'une semaine, deux semaines, un mois, etc. On va faire des opérations qui sont plus ponctuelles, mais stratégiquement, c'est pas comme lancer une boutique en ligne qui doit amener 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou 100% dans quelques années, vous voyez. C'est là où je dis que stratégiquement, on doit se vraiment penser à ce qu'il y a du long terme, mais aussi on doit regarder du tactique. Et on doit aussi regarder du quotidien, et dans le quotidien, vous avez notamment toute la notion de community management à très court terme, qui est tout simplement de répondre aux questions, et puis d'animer la page, etc. Ensuite, on va rajouter dans le Tomster la partie technologie. Alors, la partie technologie, c'est bien sûr les plateformes, les outils, la notion de format, etc. Et souvent, les gens commencent par ça, en fait. Hein, ils disent, ouais, je vais faire une page Facebook, je vais mettre de la vidéo dessus, etc. Et en fait, le problème de ça, c'est que si vous savez pas quelle stratégie vous avez, quel message vous voulez partager, etc., vos outils vous servent à rien. Un outil, ça fait tout et rien. Je veux dire, un marteau, vous pouvez taper sur un clou, mais vous pourriez taper sur autre chose qu'un clou et qu'un marteau, et peut-être même ne pas vous servir de votre marteau comme le fabricant l'a conçu. Peut-être vous pouvez avoir un jour une idée d'utilisation d'un marteau totalement différente. On a tous détourné un outil pour faire des choses un petit peu différentes. Je vous ai encouragé déjà à hacker les outils, etc. Tout simplement parce que l'outil n'est qu'un outil. Donc dans les outils, vous avez quoi? Vous avez tout un tas de moyens, par exemple, de collecter de l'info, des moyens de vous faire connaître, des moyens de parler, des moyens d'exprimer. Ça peut être de la photo, du texte, des petites vidéos, des discussions, des concours, etc. Ça peut être du mail, ça peut être d'apparaître sur certaines plateformes en particulier, sur du Facebook, sur du Twitter, est-ce qu'on est sur YouTube, est-ce qu'on a une chaîne, est-ce qu'on a de l'Instagram. Enfin, vous voyez, toutes ces notions-là de moyens, de formats, de plateformes et d'outils, ça rentre dans la technologie, mais c'est pas le premier truc par lequel on doit attaquer les choses. Ensuite, on arrive un petit peu vers la fin, on doit évaluer. Donc c'est le E de évaluer. Et donc une question qui se pose, c'est comment mesurer les retombées? Quel indicateur je mets en place pour évaluer tout simplement mes progrès, mes réussites et mes échecs aussi. C'est important de regarder ces échecs, notamment parce que souvent en entreprise d'ailleurs, on peut être stigmatisé pour ces échecs, alors qu'en fait, surtout dans le domaine d'Internet, moi je trouve qu'il faut être super humble, quoi. Il n'y a personne qui sait ce qui va marcher ou va pas marcher. Moi, j'avais raconté dans un épisode sur des campagnes de marketing viral. Je peux vous garantir qu'il y a des campagnes de marketing viral qui ont fonctionné parce que c'est un pur coup de bol, quoi. C'est un pur coup de bol. Et on va pas célébrer quelqu'un qui a réussi un truc par coup de bol et sanctionner quelqu'un qui s'est raté alors que tout était semblé marcher. Mais des fois, il y a un petit truc qui s'est grippé. Donc, il faut à la fois célébrer les progrès, les réussites, mais aussi tirer un petit... regarder les échecs et dire, c'est pas grave, on a tenté un truc, on recommence, etc. Ça, c'est une culture qui est très spéciale. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas capables de le faire. Mais pourtant, c'est un truc qu'il faudrait faire absolument en entreprise. Mais pour arriver à faire ça, il faut l'évaluer. Alors, on l'évalue avec les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. On pourrait faire un épisode complet dessus, j'ai fait travailler mes étudiants hier sur le sujet, on se rend compte qu'on a énormément d'indicateurs de performance, il faut bien les choisir, je vous rappelle que je vous invite à vous méfier de la pure notoriété qu'on n'arrive pas à mesurer, se faire connaître est un objectif qu'on a du mal à mesurer, mais on peut choisir tout un tas d'objectifs. Attention, méfiez-vous aussi d'un objectif d'engagement et un objectif de nombre de fans. Le nombre de fans ne vous amène pas la visibilité ni des clients, parce que vous pouvez avoir des fans qui ne font rien, de même qui ne vous apportent pas des ventes ou quoi que ce soit, et l'engagement ne vous apporte pas non plus des clients. Vous pouvez avoir une page Facebook qui amuse les gens, qui a un engagement énorme, et ne pas avoir de gens qui deviennent clients derrière. Voilà. Donc on est en train de dépasser la notion d'engagement comme KPI, on va passer sur des indicateurs clés qui sont plus compliqués aussi à mesurer, et c'est là aussi où je dis que en entreprise, on doit trouver aussi un moyen de les mesurer et que c'est pas un projet qui est sur chez une personne seulement et qui est beaucoup plus large. Il faut se rappeler, notamment dans l'évaluation, qu'il y a un coût. Alors, il y en a certains qui disent les réseaux sociaux, c'est la communication gratuite, mais en fait, c'est pas vrai. En tant que personne, par exemple Estelle, si c'est toi qui t'occupes des réseaux sociaux, de toute façon, tu sais bien que tu passes du temps dessus et le temps que l'on passe dessus représente du temps de production que l'on passe pas sur la production d'autre chose, représente un salaire pour l'entreprise, etc. Et donc, moi, je dis toujours à mes étudiants, attention, vous êtes en obligation de montrer à quoi vous servez, parce que le patron, lui, sait combien vous coûtez, mais à un moment donné, il ne sait pas ce que vous rapportez. Et s'il ne sait pas ce que vous rapportez, alors qu'il sait combien vous coûtez, et bien quelque part, il a un problème pour savoir si finalement vous le servez vraiment à quelque chose. Et l'évaluation, c'est pour ça que c'est important en entreprise aussi, parce que quand vous êtes dans vos projets personnels, de marque personnelle, vous dites, bon, ça me rapporte rien, j'arrête, je m'auto-vire ou quoi que ce soit. Là, non, vous avez quelqu'un qui, lui, va attendre des résultats, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dès le début, penser aux moyens d'évaluation. Comment on va évaluer ça? Quels sont les indicateurs? On les mesure au début, on les mesure tout au long, etc. Et comment on arrive finalement à mesurer ça avec des indicateurs qui soient vraiment intéressants pour nous et pour l'entreprise. Et enfin, pour finir, le R, c'est les ressources. Eh ben, c'est forcément le qui, comment, combien, quand, donc les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles, techniques, les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer en interne, combien de temps ça va me prendre, combien de temps ça va prendre à d'autres personnes, est-ce qu'il y a des gens dans un service que je dois mettre à contribution, est-ce que je dois aller parler à telle ou telle personne en particulier, est-ce que tout doit être validé par une personne, vous voyez, toutes ces ressources. Est-ce que je dois passer par une agence? Est-ce que je peux le faire par moi-même? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un abonnement pour un logiciel en particulier? Tout ça, pardon, excusez-moi, rentre dans toutes les ressources que vous devez utiliser. Donc, vous avez compris le cadre du Tomster, hein, je vous répète. C'est T de target, donc la cible, et ensuite c'est objectif, message, stratégie, technologie, évaluer ou évaluation et ressources. Alors, tout ça, c'est un canevas général dans lequel, en fait, on va venir greffer plein de choses. Vous avez vu, pour certains tiroirs, déjà, j'ai ouvert d'autres tiroirs dessous. La plupart de ce que j'ai dit pour la marque personnelle s'applique. Sauf que ici, bien sûr, c'est cadré, structuré, ça rassure le patron ou le chef. Au passage, vous pouvez appliquer le Tomster pour vous-même en tant que marque personnelle. Hein. Mais dans le cadre de votre entreprise, ça a un gros avantage, c'est que ça fait pro. Ça vous met en valeur, vous et vos compétences, hein, voilà, très clairement. Et en fait, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà fait aussi en développement de marque personnelle pour vendre vos compétences à vos patrons et lui vendre peut-être le fait que c'est vous qui allez vous occuper de ça parce que vous avez monté la stratégie, vous avez fait un canevas qui est propre, qui est cadré, qui lui montre où vous voulez aller, pourquoi il faut le faire, etc. Et donc, quelque part, que c'est à vous qui vous confiez cette mission de le faire. En revanche, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise est une structure plus lourde, moins agile que nous en tant que personne. Nous, en tant que personne, on décide de ce qu'on veut faire, voilà, on est, certains disent, ni Dieu ni maître, c'est-à-dire qu'on est notre propre chef. Une entreprise, elle a plus de moyens, surtout quand elle a des salariés, elle a forcément plus de moyens, mais elle est plus lente à faire bouger, elle a une inertie qui est souvent beaucoup plus importante, elle a des gens qui ne le cernent pas non plus pourquoi ils veulent le faire, pourquoi il faudrait faire des choses même d'ailleurs. Les fonctions sont découpées entre la production, la vente, la communication, le SAV, il y a des personnes qui s'occupent d'une chose, de plusieurs choses, etc. Et puis, c'est pas leur entreprise, vous voyez, ils sont salariés, donc il y a une question de motivation qui est aussi très différente. Et en fait, Internet aussi impacte tout le monde de manière totalement transversale. Et notamment, plus vous montez dans les décisions, plus vous avez des gens qui, quelque part, se sentent menacés même par Internet, par toute cette transformation numérique. On a une coutume de dire que des fois, les patrons sont menacés par les gens qui maîtrisent Internet parce qu'Internet va modifier tellement le fonctionnement de certaines entreprises que peut-être que le futur dirigeant de certaines entreprises, c'est en fait le gars qui est responsable de la transformation digitale. Alors, dans certaines entreprises, ils appellent ça des CDO, enfin voilà, des chief, je sais pas quoi, enfin, vous voyez, bon, des grands mots qui ne veulent pas dire grand-chose parce que souvent, certains ont des grands mots sur leur carte de visite, mais en fait, ne font pas grand-chose. Mais le responsable de la transformation digitale devrait être le patron, mais souvent c'est pas lui parce qu'il pige pas grand chose. Dans certaines structures, attention, je dis pas dans toutes, et il y a des structures dans lesquelles certains ont mis des années pour faire leur carrière, pour arriver à certains postes, et puis d'un coup le digital et le numérique viennent de transformer totalement les choses, et même font apparaître en fait leur méconnaissance du sujet. C'est pour ça d'ailleurs que il y a une mission quand on est en entreprise comme ça, Estelle, c'est aussi de d'impliquer d'autres personnes que soi, sensibiliser. Il y a une notion de formation en interne, d'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, sensibiliser aux outils, montrer les outils. Faire aussi prendre en compte que les gens doivent travailler sur les outils par eux-mêmes. Par exemple, il y a des choses qui sont pas toujours faciles. LinkedIn, c'est bien. On dit oui, il faudrait que les gens soient sur LinkedIn, qu'ils parlent de notre entreprise sur LinkedIn, l'entreprise dont ils sont salariés, qu'ils montrent qu'ils sont salariés de l'entreprise sur LinkedIn, etc. Mais certaines entreprises se disent oui, mais si je les mets sur LinkedIn, c'est aussi ils vont se faire chasser pour changer de boîte, etc. Les gens n'ont pas besoin de qu'on leur explique d'aller sur LinkedIn pour s'ils ont envie de changer de boulot, ils trouveront un moyen de changer de boulot. Mais si vous voulez qu'ils parlent bien d'entreprise, il faut aussi quelque part les sensibiliser à l'importance, etc. Et il faut aussi qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. C'est là où on voit en fait que toutes ces questions-là de guidelines, de bonnes pratiques, etc. d'entreprise, pour Estelle, pour répondre à ta question, il y a tout ce que j'ai dit sur la création de contenu. Et pour cadrer un petit peu les choses, tu peux reprendre la grille du Tomster, parce que quelque part, je pense que ça cadre bien à peu près avec ce que tu l'objectif. Derrière, ensuite, ben tu découles très clairement en disant, ben une fois que je sais ma cible, etc., mes plateformes, mes outils, ben je suis capable de faire les messages. Et là, c'est de l'imagination, de la créativité, de la développement des messages, etc., des grandes thématiques. Mais il y a aussi très clairement, à un moment donné, un besoin aussi d'aller sensibiliser d'autres personnes. Il y a des personnes qui nous ont des fois embauchés sur le sujet, il y a des fois des personnes dont on aura besoin, des personnes ressources, etc. Et il faut aussi leur montrer que quelque part, tout le monde est impliqué dans ce chantier-là. Voilà, c'était ma réponse pour Estelle sur cet ensemble-là. Je suis convaincu, parce que moi j'ai travaillé longtemps en entreprise, moi en collectivité, mais aussi comme prestataire pour des entreprises qui étaient dans ces travaux et puis je fais du conseil des entreprises qui sont aussi dans ça. En fait, la création du contenu pour une entreprise n'est qu'une petite parcelle de du travail qu'il y a à faire. Et souvent, ça met à jour des problématiques qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus complexes surtout, pardon. Ça met à jour tout un tas de fonctionnement qu'il faut revoir, etc. Des fois une information qui n'est jamais écrite mais dont on a besoin, des fois une information qui se situe dans la tête d'une personne, des fois une information qui ne veut pas être partagée, et souvent en fait on se rend compte que finalement faire un site, faire une page Facebook, etc., quand on doit créer le contenu qui va aller dessus, ça va remuer beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de créer quelque part un guide global. Attention quand même, je voudrais prévenir là-dessus, ne pas mettre trop de choses stratégiquement et dans les objectifs, etc. C'est pas la peine d'en mettre trop. Il vaut mieux en mettre quelques-uns et dire voilà, on va essayer de faire pendant l'année qui vient faire 1, 2 ou 3 chantiers très précis pour dire on va essayer de se faire connaître un peu plus, on va essayer de collecter l'adresse mail, on va essayer d'avoir des gens sur les réseaux sociaux, on va essayer de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, de comprendre à quoi les gens pourraient réagir quand on leur parle sur les réseaux sociaux, etc. Plutôt que d'essayer de se dire on va faire plein de trucs et tout, et en fait ne pas arriver à le faire tout simplement, parce qu'il y a une inertie qui est très importante. Voilà, sur ce, j'ai fini pour ce soir, hein. Parce que 22h08, vous voyez, ce soir j'en reste retard, entre les jours où je fais le matin et les jours où je fais le soir, il y a des moments, vous voyez, mais vous voyez que la contrepartie du fait que je fasse ce soir, c'est que je n'ai plus de voix, donc ce qui m'inquiète, donc je vais me prendre une petite infusion, ou une petite infusion avec une petite cuillère de miel, manger un petit chocolat, et pendant que je fais ça, je vous dis tout simplement à demain pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas, posez vos questions et créez du contenu. Ciao, ciao !